15h en temps universel. Et c'est l'heure du journal présenté par Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Anne-Cécile Bras, bonjour à tous. Dans l'actualité, le soulagement des marchés financiers suite au revirement de Donald Trump. Après avoir décrété la flambée des droits de douane, le président américain a suspendu la mesure pour tout le monde excepté la Chine. La guerre commerciale paraît loin d'être finie, mais le soulagement est réel chez les partenaires des États-Unis. La France pourrait bientôt reconnaître un État palestinien. Dans la classe politique française, les réactions à l'annonce d'Emmanuel Macron sont dans l'ensemble favorables, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, les contrôles aux faciès en France. Une étude montre que de nombreux jeunes hommes issus de l'émigration subissent des contrôles policiers et des amendes jugées abusives. Mais tout de suite, pour commencer ce journal, un vent de fronde dans l'armée israélienne. Malgré la pression de la hiérarchie militaire, des soldats dénoncent une guerre qui n'en finit pas à Gaza. Un groupe de près de 1000 réservistes a rendu public un courrier qui exige le retour des otages, même si cela doit signifier la fin de la guerre contre le Hamas. Envoyé spécial de RFI à Jérusalem, Abla Junaidi.
Ce n'est pas le premier courrier du genre, mais le nombre, 970 signataires, fait son effet. Après les menaces pour empêcher sa publication, l'état-major et le ministère de la Défense ont décidé de renvoyer les signataires actuellement mobilisables. La guerre, selon ces réservistes, sert désormais des intérêts politiques et personnels, un argument souvent entendu chez l'opposition politique et chez certains proches d'otages. Pour le cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahou, les signataires sont des extrémistes marginaux. Pourtant, cette lettre n'appelle pas à un refus général de servir, selon les militaires qui l'ont signée. Elle enjoint le gouvernement à donner la priorité à la libération des otages plutôt qu'à la poursuite de la guerre. La poursuite de la guerre, disent les réservistes, entraînera la mort des otages, des soldats et des civils innocents. Plusieurs réservistes avaient déjà refusé de retourner à Gaza, où des experts de l'ONU ont estimé que les méthodes de guerre israéliennes correspondaient aux caractéristiques d'un génocide. Le mois dernier, deux soldats israéliens qui protestaient contre la reprise des bombardements ont été renvoyés par leur hiérarchie. Abla Junaidi, Jérusalem, RFI.
À la fois des sources turques et israéliennes l'affirment, les deux pays voisins ont mené hier soir en Azerbaïdjan des discussions visant à prévenir le risque d'escalade en Syrie. Toutefois, les deux n'envisagent pas pour le moment de normaliser leurs relations. La Turquie est un soutien de poids de la coalition maintenant au pouvoir à Damas, influence qui inquiète Israël. Une reconnaissance de la Palestine par la France serait une récompense pour le terrorisme. C'est la réaction du ministre israélien des Affaires étrangères au projet dévoilé hier par Emmanuel Macron. Paris pourrait reconnaître dès le mois de juin un État palestinien. À l'inverse, une ministre palestinienne a salué l'annonce française, y voyant un pas dans la bonne direction. En France, la classe politique est partagée, mais dans l'ensemble, les réactions sont favorables. Reportage à l'Assemblée nationale de Victorien Villaume.
Parmi les plus satisfaits, la France insoumise qui réclame régulièrement la reconnaissance de l'État de Palestine. Cette volonté doit se traduire en actes, prévient toutefois leur chef de file, Mathilde Panot. Satisfaction également du PS qui voit cette annonce comme un moyen de faire pression sur Benjamin Netanyahou. Béatrice Bellé.
Ça va au-delà d'un symbole. Il est temps pour que un État avec des représentants légaux puisse aujourd'hui siéger dans les instances et organiser finalement le pays.
Cette reconnaissance serait cohérente avec la position de la France depuis le général de Gaulle, affirme-t-on au MoDem. Philippe Vigier salue d'ailleurs un acte très fort.
Ça compte la voix de la France dans le monde. Poser cet acte-là au moment où on voit bien que le cessez-le-feu ne fonctionne plus, ça peut paraître prématuré, mais le président a raison, il faut à un moment prendre le devant sur les autres et dire haut et fort ce que pensent d'ailleurs beaucoup de Français.
Un parti, en revanche, détonne, le Rassemblement National, pour qui cette annonce est prématurée. Gaëtan Dussaucé.
La reconnaissance d'un État palestinien, c'est prendre le risque de reconnaître un État sous l'autorité du Hamas, d'une organisation terroriste et islamiste qui plus est.
L'ambition d'Emmanuel Macron est également de participer à une dynamique collective pour que ceux qui défendent la Palestine reconnaissent à leur tour Israël.
Autre réaction enfin, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, elle a préconisé ce matin sur France Inter une solution à deux États, mais avec des garanties de sécurité pour les deux. Autre Autre grand titre dans l'actualité, le soulagement des marchés financiers après la volte-face de Donald Trump sur les surtaxes douanières. La débâcle d'hier s'est transformée aujourd'hui en euphorie. Le président américain ayant annoncé que pour tous les pays, une suspension pendant 90 jours des taxes à l'importation, à l'exception très notable de la Chine. Les droits de douane américains restent à 125% pour les produits chinois. De son côté, la Chine a imposé des surtaxes de 84% aux importations américaines. Pékin prône maintenant les négociations en vue d'un compromis. De son côté, l'Union européenne a à son tour mis en pause ses contre-mesures douanières prises à titre de rétorsion. Le soulagement est réel chez les partenaires des États-Unis, mais la guerre commerciale est loin d'être finie. Les taxes sur l'acier, l'aluminium et l'automobile sont toujours d'actualité et les effets sur l'emploi se font déjà sentir. Tata Steel, le géant indien de l'acier, projette de supprimer 1600 emplois aux Pays-Bas. Il met en avant une faible demande en Europe et des tensions commerciales du moment. Pour les syndicats européens, ce n'est qu'un début et bien d'autres secteurs sont menacés. On écoute Ludovic Voûte de la Confédération européenne des syndicats.
On aurait jusqu'à 720 000 emplois qui pourraient être directement menacés, majoritairement dans des secteurs industriels stratégiques. Évidemment, on parle ici de la métallurgie, de l'acier, de l'aluminium, qui sont déjà des secteurs qui sont en difficulté avant même que les tarifs arrivent. On parle évidemment aussi de l'automobile. Et donc, on est ici face à des emplois qui souvent sont des emplois qualifiés, de haute qualité, stables, et qui sont aussi souvent dans des régions qui ont déjà vécu des vagues de désindustrialisation ou des difficultés économiques pour ceux qui en tout cas sont dans les secteurs industriels. Et donc c'est pas des abstractions, les impacts de ces tarifs douaniers, ça tombe directement sur des ouvriers, des techniciens, des chaînes de production dans des régions qui sont en difficulté et qui risquent de l'être encore plus.
Ludovic Voûte de la Confédération européenne des syndicats avec Anne Verdaguer. Et puis cette question autour de la guerre commerciale, Donald Trump a-t-il commis un délit d'initié? À Washington, plusieurs élus démocrates émettent des soupçons. En encourageant à acheter des actions juste avant son revirement spectaculaire sur les droits de douane, le président a peut-être illégalement manipulé les marchés. Les États-Unis et la Russie ont bouclé aujourd'hui à Istanbul, en Turquie, des discussions bilatérales. Les deux pays ont dans le même temps procédé à un nouvel échange de prisonniers, le deuxième depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Autre signe de réchauffement, la russo-américaine Ksenia Kerelina a été échangée aux Émirats Arabes Unis contre le germano-russe Artur Petrov. Avec au moins 218 morts, le bilan de la catastrophe à Saint-Domingue continue de s'alourdir. Les secouristes ont pratiquement perdu tout espoir de retrouver des survivants dans les décombres d'une discothèque dont le toit s'est effondré pendant un concert. En France, plus particulièrement en région parisienne, les jeunes hommes issus de l'immigration subissent des contrôles policiers visant à les évincer de l'espace public. C'est ce que révèle une étude de deux chercheuses en sciences politiques que soutient la défenseure des droits. Ces jeunes sont empêchés de se regrouper, considérés comme indésirables dans les commissariats de police. Quant aux contrôles et aux amendes infligées, ils sont jugés excessifs. Tanita Fallet.
Dans les notes d'un commissariat parisien, une consigne: évincer les indésirables. Alors la chercheuse Magna Boutros s'est demandé qui ils étaient, ces indésirables. Elle se penche sur une enquête qui avait été menée par l'IGPN, la police des polices.
Il s'agit principalement d'hommes jeunes qui sont originaires de l'immigration postcoloniale, principalement subsaharienne et nord-africaine.
L'objectif, c'est qu'ils disparaissent de l'espace public même s'ils n'ont pas commis d'infraction, souligne la chercheuse à Sciences Po.
Dans 75% des cas, ils ne constatent aucun comportement incivil ou délictuel qui pourrait justifier de cette intervention policière. Donc souvent, les policiers vont écrire « Nous sommes en présence d'une dizaine d'indésirables, rien à signaler ».
Et pour ces groupes, le moindre crachat par terre est sanctionné par une amende. Aline Dayer a commené l'enquête.
Même s'ils reconnaissent une partie importante des infractions pour lesquelles les policiers les verbalisent, c'est la disproportion du nombre d'amendes qui les fait parler d'abus.
Ils se retrouvent avec d'énormes dettes allant jusqu'à plus de 30 000 euros pour l'un d'entre eux.
Tanita Fallet, un mot du Festival de Cannes. Les dirigeants du festival ont dévoilé aujourd'hui la sélection officielle. La 78e édition se déroulera du 13 au 24 mai. Enfin, en tennis, le tournoi de Monte Carlo qui marque chaque année le coup d'envoi de la saison sur terre battue. Parmi les résultats du jour, la victoire très convaincante d'Arthur Fils, l'homme en forme côté français. Il ne fait qu'une bouchée du russe André Rublev. Et en quart de finale, Arthur Fils affrontera le numéro 3 mondial espagnol, le Carlos Alcaraz. Voilà pour l'information. Place maintenant au Pont des Arts avec vous, Marjorie Bertin. Bonjour.
Bonjour Gilles, merci.